Voilà donc, bienvenue, bonsoir à tout le monde, bienvenue donc sur les 97.3 MHz. Vous écoutez bien sûr Radio FMS 3 qui émet depuis la merveilleuse commune de Basse-Pointe. Et en cet instant, nous sommes dans une toute nouvelle émission. Et que vous avez écouté à l'instant le spot qui annonce cette nouvelle émission, je vous propose de vous refaire écouter ce spot et puis après qu'on en parle.
Ils ont bâti des empires, conquis des nations, changé le cours de l'histoire. Qui étaient réellement Darius, Alexandre le Grand, Artaxerxès, Hérode et ces grands souverains qui ont marqué leur époque? Quel rôle ont-ils joué dans l'histoire du peuple de Dieu?
Dans les chroniques de l'histoire biblique, Karine, professeure d'histoire-géographie, vous emmène à la découverte de ces personnages qui ont croisé le destin d'Israël.
À travers une comparaison entre les sources historiques et le récit biblique, chaque émission vous permettra de mieux comprendre le contexte, les événements et les prophéties qui ont façonné l'histoire. Les chroniques de l'histoire biblique, une émission qui fait dialoguer l'histoire et les écritures. Pour mieux comprendre le passé et éclairer le présent. Rendez-vous très bientôt sur notre antenne, tous les mercredis de 14 à 15h ce mois de juillet et également au mois d'août 2026.
Alors bonsoir Karine, comment ça va?
Bonsoir, ça va très bien, merci beaucoup.
Très bien.
Très bien, oui, vraiment très bien.
Alors nous sommes contents que tu sois des nôtres cet après-midi pour cette toute nouvelle émission qui va commencer. Donc on va en parler. Est-ce que tu peux déjà nous parler de toi un peu? Karine,
alors,
qui est Karine?
Je suis une enseignante, j'enseigne l'histoire et la géographie en collège et lycée. Je m'intéresse énormément à la lecture, aux recherches. Et je serai ici avec vous tous les mercredis à partir de 14h pour qu'on puisse voyager à travers le temps, rencontrer les grands rois, savoir ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé, ce qu'ils ont fait et voir de quelle manière ils ont pu impacter l'histoire du monde et aussi la Bible.
D'accord. Et je trouve que c'est une très bonne chose puisque en tant que professeur d'histoire géo, tu es à même d'en parler puisque c'est important. Il y a quand même de grands rois que nous connaissons historiquement, mais je pense que quelques précisions sur ces rois-là nous feraient du bien. Alors Karine, le titre de l'émission?
Le titre s'appelle Les chroniques bibliques.
D'accord.
Voilà, on est là tous les mercredis pour apprendre à retracer historiquement les grands rois.
D'accord.
Voilà, en gros, c'est ce que nous ferons. Nous irons sur les traces des plus grands souverains de l'Antiquité. Et nous finirons à la fin par le roi des rois, le plus grand roi, Jésus-Christ.
Exactement, Karine. Merci beaucoup. Alors, on va commencer, on va finir par, comme tu as dit, par un très grand roi, le roi des rois. Mm-hmm. Mais on va commencer quand même par un grand roi, du point de vue humain.
C'est ça.
Puisqu'il s'agit, bon, ça dépend de la prononciation, du roi Nebuchadnezzar. Mais toi, tu prononces autrement, je crois.
Alors, chez moi, enfin, je le prononce, je l'appelle Nebuchadnezzar.
D'accord.
Voilà.
C'était peut-être pas bonne prononciation, pourquoi pas. Alors, parlons un peu de ce roi que tout le monde connaît dans l'histoire. Mais nous aurons plus de précisions concernant ce roi-là aujourd'hui. Nous t'écoutons, Karine.
Alors, le roi Nebuchadnezzar, pour reprendre ton nom, c'est un roi qui est né vers 630 avant notre ère. Mm-hmm. Il était le fils de... Alors, je présente mes excuses aux gens qui nous écoutent. La prononciation des noms de ces rois ainsi que de leurs provinces est très particulière.
Ouais.
Donc,
c'est pas comme Paris.
Non, vraiment pas. Ni comme
Fort-de-France.
Fort-de-France, exactement.
Ouais, c'est compliqué.
Très. Ouais. Alors, ce roi était le fils de Nabopolassar. Mm-hmm. C'est lui qui avait fondé la dynastie chaldéenne. Alors, je crois qu'on prononce aussi chaldéenne, c'est
oui.
Cela. Mm-hmm. Donc, c'est un homme qui monte sur le trône en 605 avant Jésus-Christ. Il va régner pendant 43 années jusqu'à sa mort en 562 avant Jésus-Christ, à l'âge respectable de 84 ans. C'est quand même
c'est beaucoup.
Un long règne, oui.
Oui.
C'est vous dire la longévité exceptionnelle de ce règne, mm-hmm. qui coïncide avec l'âge d'or de l'empire néo-babylonien.
Mm-hmm.
Alors avant même qu'il ne devienne roi, il n'était encore qu'un prince héritier. Lorsqu'il s'illustre comme un véritable chef d'une grande armée.
Mmh.
C'est un fin stratège qui sait ce qu'il fait.
Mmh. Mmh.
Il écrase les armées égyptiennes d'un pharaon nommé Nekao.
Mmh.
Lors de la célèbre bataille de comment ça s'appelle ? De Carchemish.
Oui.
Alors c'est un épisode qu'on retrouve dans plusieurs livres, hein, me semble-t-il.
La bataille de Carchemish.
Voilà, oui. Mm-hmm. Il me semble qu'on le retrouve dans plusieurs livres de la Bible.
Mm-hmm.
Alors Nabuchodonosor, il était le bâtisseur de la ville de Babylone.
Mm-hmm.
Une fois couronné avec le soutien de son épouse Amytis, originaire de Médie, mm-hmm. Nebuchadnezzar se lance dans un vaste programme de reconstruction.
Mm-hmm.
Alors, c'est un homme pieux, hein. C'est un homme pieux, mais il est pieux de manière particulière.
Justement, est-ce que tu peux nous parler de cette piété? Parce qu'on sait que dans le temps des rois comme Nebuchadnezzar, comme Darius, comme Cyrus, on voit qu'ils ont une certaine proximité avec Dieu, des petits.
Alors oui, ils n'ont pas une proximité avec Dieu, hein. Mm-hmm. Ils ont plutôt une grande spiritualité mystique.
Voilà.
Mm-hmm. Ils aiment tout ce qui fait attrait aux spiritualités, aux idoles, aux prophéties, aux songes.
Ils vont jusqu'à bâtir des temples.
Voilà.
C'était pas des personnes cartésiennes, c'était pas des rois cartésiens comme des présidents de nos jours.
Exactement.
Ou qui ne croient ni en Dieu ni en diable de nos jours. Mais mm-hmm. à cette époque-là, les rois, quand même, avaient une approche de la chose spirituelle.
Oui. Alors, mm. ils avaient conscience qu'il existait une spiritualité. Maintenant, ils ne savaient pas d'où elle provenait.
Oui.
Donc il prêtait tous les songes, par exemple, il voit trois oiseaux dans le ciel à un instant T.
Ils vont interpréter.
Ils vont l'interpréter à leur façon.
Oui, d'accord. Mais je te laisse continuer, pas de problème.
Donc c'est comme ça qu'on dit qu'ils sont. C'est pour cette raison qu'on dit qu'ils sont pieux à leur manière.
Oui, d'accord.
Donc pour en revenir à notre roi, à ce roi que nous présentons, il restaure les temples qui ont été dédiés à des dieux.
Mmh.
Il fait édifier un palais, une somptueuse résidence au sud de la ville, et surtout, il serait à l'origine des fameux jardins suspendus de Babylone. Alors, je vous invite à rechercher sur Internet. Notamment sur Google, rechercher ce que c'est que les jardins suspendus. Alors, les jardins suspendus de Babylone ont été classés comme l'une des sept merveilles du monde antique. C'est vous dire la manière dont ces jardins étaient beaux, hein, vraiment très beaux.
Et je note que tu as quand même signalé que il a fait ça pour honorer l'une de ses épouses.
Oui, alors il a fait ça pour. Alors, on ne sait pas de quelle épouse il s'agit, mais Nabuchodonosor, il avait plusieurs femmes.
Mm-hmm.
Donc, on dit qu'il était polygame. Maintenant, pour l'époque, c'est ce qui se faisait.
Oui, tel que David quand même avait 10 femmes.
Voilà.
Son fils Salomon avait 10 fois plus, 1000 femmes. Donc c'était très courant que même dans le judaïsme, même dans le peuple de Dieu, certaines personnes avaient plusieurs femmes.
Oui,
c'était très courant.
C'était une pratique courante.
C'était des bons martiniquais.
Pardon ?
C'était des bons martiniquais.
On va pas dire ça quand même.
Voilà. C'était bon, la parenthèse.
C'est cela. Donc, bref, tout ça pour dire qu'il est à l'origine de création de somptueux édifices. Alors, une petite précision relativement importante. En réalité, les historiens, en ce qui concerne le règne de Nabucodonosor, ils distinguent deux grands sièges de Jérusalem. Le premier a eu lieu en 597 avant Jésus-Christ. Et le second, qui a été un siège décisif, a eu lieu entre 587 et 586 avant Jésus-Christ.
Alors, tu parles de siège, Karine. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un siège? Parce que tu dis qu'il a mis le siège au niveau de Jérusalem.
Oui.
Alors,
oui,
qu'est-ce
oui.
que c'est qu'un siège?
Alors, un siège, c'est une opération militaire qui consiste à encercler l'ennemi de manière à le priver de toute aide extérieure jusqu'à ce qu'il se rende ou alors qu'il finisse par être tué.
Donc, il s'y est pris à deux reprises, tu as dit. Hein?
Oui, il a eu deux grands sièges à Jérusalem, l'un en 597 et l'autre entre 587 et 586 avant l'arrivée de Jésus-Christ. Il est très important de préciser que tout ce que nous expliquons là, ça se passe avant l'arrivée de Jésus-Christ. Donc, sur une frise chronologique, nous traitons les histoires qui se passent avant l'arrivée de Jésus-Christ. Donc, avant l'année zéro, quoi.
Avant l'année zéro.
Voilà.
C'est pour cela que nos chiffres sont en décroissant.
Voilà, exactement. C'est très important de le préciser.
Alors, on fait une petite pause musicale, Karine. Je rappelle que nous sommes en train de parler du roi Nebuchadnezzar.
Voilà.
Ça dépend de la prononciation, évidemment. Mais vous savez de qui nous parlons, du roi Nebuchadnezzar. On fait une petite pause musicale.
Exactement. À tout à l'heure.
Nous poursuivons donc avec Karine. Je rappelle que nous sommes en train de parler du roi Nebuchadnezzar. Chers auditeurs, donc nous parlions du jardin suspendu. On a parlé aussi du siège, des deux sièges, dont ce roi a été l'auteur au niveau de Jérusalem. On était arrivé là.
Voilà.
Deux sièges.
Alors, ces sièges vont se solder par la destruction du temple de Salomon et la déportation d'une grande partie de la population juive vers la cité de Babylone. Alors, c'est cette seconde campagne qui va véritablement marquer le traumatisme historique et théologique pour le peuple hébreu.
Donc, tu parles bien de traumatisme historique et théologique.
Voilà, c'est-à-dire que historiquement, c'est la première fois que un peuple aussi grand se retrouve déporté vers une nouvelle cité.
Donc, de point de vue spirituel, je dirais qu'ils étaient avertis.
Oui.
Quand même, Dieu avait déjà envoyé plusieurs prophètes au préalable pour les avertir qu'il allait envoyer les rois de Chaldée pour les emmener en captivité. Et je précise justement que Dieu avait lui-même déterminé la durée de la déportation.
Oui.
Donc tout ça s'est passé parce que le peuple a péché.
Oui.
Et que Dieu a permis qu'un roi païen tel que Nebuchadnezzar vienne pour déporter le peuple, pour les amener loin de leur patrie, loin de leur nation. Et
voilà.
Toi, d'un point de vue historique, tu nous rappelles que ça a été un traumatisme théologique et aussi de la civilisation.
Oui, bien sûr, parce que bon, il est bien connu, hein, rien n'est nouveau sous le soleil. On aura beau nous dire attention, le feu ça brûle, on aura toujours tendance à vouloir mettre la main pour constater que le feu brûle. D'accord. Et c'est ce qui leur est arrivé, on les a prévenus, ils n'ont pas cru, ou alors ils ont cru de manière relativement légère, jusqu'au jour où la déportation fut un véritable traumatisme.
Mais Karine, d'un point de vue spirituel, je fais une petite parenthèse par rapport à ce que tu dis, je suppose que les livres d'histoire, l'histoire d'une manière générale, parlent bien sûr de la déportation, du fait qu'il y a eu un siège à Jérusalem dont l'auteur était le roi Nebuchadnezzar. Mais je suppose que les livres d'histoire ne mentionnent pas, ne disent pas que ce peuple avait été averti par des prophètes de Dieu qu'il y aurait des déportations.
Ah non. Ce n'est pas une information qu'on retrouve dans
les livres d'histoire.
Dans les livres d'histoire, dans la mesure où la France a fait en sorte que l'enseignement soit laïque. Donc on ne mélange pas Dieu dans ces histoires-là.
Ouais.
Alors de mon point de vue, Dieu est trop noble pour pouvoir se mélanger à ça.
Oui, d'accord.
On mélange pas les serviettes et non, c'est pas possible.
Ouais.
C'est pas possible.
L'homme a décidé d'exclure une partie de la vérité.
Oui.
Nous sommes mis en face du résultat, mais on n'a pas l'équation en fait.
Non.
On n'a pas l'équation. On sait pas pourquoi ils ont été déportés. C'est bien de le dire au niveau d'un point de vue historique, mais pourquoi ils ont été déportés, ça on ne le dit pas dans le livre d'histoire.
Non. Ça, c'est pas une information qu'on retrouve, non.
Donc, ce traumatisme, comme tu dis, que le peuple a vécu, ça a changé beaucoup de choses en Israël.
Ah oui. Alors, figurez-vous que c'est lors de cette déportation que qu'un jeune homme que nous connaissons beaucoup et que beaucoup d'entre nous apprécient, le jeune prophète Daniel et ses trois compagnons qui ont été rebaptisés Shédrak, Meshak et Abednego, ils ont été amenés à la cour de Babylone. Ce qui fait que aujourd'hui, à ce moment-là, Nebuchadnezzar s'est retrouvé face à un dieu plus grand que lui. On a un roi qui se retrouve face à un dieu plus grand que lui.
Alors, je te lis un petit message que j'ai reçu à l'instant. Ça va peut-être t'encourager, d'une auditrice de Fort-de-France. Ah, elle te dit, pasteur, je suis ravie et impressionnée. Bonne continuation.
Je suis ravie de pouvoir.
C'est juste pour t'encourager.
Merci, c'est très gentil.
D'accord, on continue, Karine.
Donc
je voulais juste rebondir sans perdre ton fil. Hein.
Mm-hmm.
Tu as dit que ils ont les trois jeunes gens.
Shédrak, Meshak et Abednego.
Donc il faut dire que c'est pas leur vrai nom. C'est des noms donnés par les Babyloniens.
Oui.
Des noms de Babyloniens.
Oui.
Donc parce que quand ils sont arrivés là. Je crois que tu as déjà dit ou pas, mais le roi va choisir des personnes intelligentes dans les personnes déportées.
Alors oui, ça c'est quelque chose qui vient.
Oui.
Alors le roi effectivement, c'était un homme qui aimait s'entourer de gens très très instruits, des gens qui savaient lire, écrire, pour pouvoir l'aider à gouverner.
Ouais.
Il aimait surtout prendre les gens les plus instruits.
Et les gens nobles.
Des contrées qu'il avait assiégées pour pouvoir l'aider à gouverner les contrées qu'il avait assiégées.
Alors, juste une parenthèse spirituelle, toujours, Karine.
Vas-y.
Ne perds pas ton fil. Est-ce qu'on peut dire que cette parabole s'applique à ce cas-là? Cette parabole qui dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Le fait qu'ils s'entourent de personnes nobles intelligente, je pourrais dire que ça ne peut que le faire grandir lui-même, mm-hmm. parce qu'il est entouré de personnes cultivées, parce que Sadrach, Mesachach, Abednego, c'était des nobles,
oui.
qui savaient lire, qui savaient écrire, qui étaient intelligents, des, mm-hmm. des jeunes gens sages.
Oui.
Est-ce qu'on peut dire que ça pouvait contribuer, tu l'as déjà dit en quelque sorte, hein, à l'avancement de son propre royaume?
Alors, de là à dire que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, je ne suis pas sûre que...
Non, c'est la Bible qui le dit. Hein. Je dis, est-ce qu'on peut appliquer ce verset à ça? Non.
Pas là, parce que Daniel et ses trois compagnons n'étaient pas de mauvaises compagnies.
Non, je ne parlais pas de Daniel qui était une mauvaise compagnie. Je parle que le roi s'entourait de bonnes personnes.
En général, c'est très important. Si nous voulons voir plus grand, il faut s'entourer de gens plus grands que nous.
C'est ce que je voulais dire par là.
Ça, c'est très important. J'irai peut-être un peu loin. Si vous voulez être riche, entourez-vous de gens riches.
Oui.
Parce que les gens riches connaissent les termes, le comportement, l'attitude, l'esprit à avoir pour être riche.
Oui.
Et si vous fréquentez des gens qui n'ont pas de perspective d'évolution, vous n'irez pas bien loin.
Oui, c'est clair.
Et c'est ce que Nebuchadnezzar fait. Non. Il veut aller loin, donc il s'entoure de gens qui voient loin.
Pas forcément des gens de son royaume.
Non, pas du tout.
D'accord.
Non.
Puisqu'il prend des juifs.
Exactement. Mmh. Alors, ici, dans le livre de Daniel, Daniel nous montre un Nebuchadnezzar tourmenté par des rêves. Et Dieu a accordé à Daniel un don d'interprétation.
D'accord.
Donc, pour remettre les choses dans leur contexte, le roi, il fait des rêves qu'il ne comprend pas. Et il se trouve que les gens qu'il a autour de lui ne parviennent pas à lui dire, à lui expliquer ce que son rêve signifie. Parce que je rappelle que ce sont des gens qui sont très branchés, interprétation des rêves, songes et tout ça. Donc il veut absolument comprendre pour quelle raison il rêve de cela. Alors je me souviens plus exactement de quoi il rêvait. Et puis Daniel, il intervient et lui annonce qu'il connaîtra 7 années de folie. Donc il vivra comme un animal des champs en mangeant de l'herbe, les cheveux longs comme des plumes, les ongles comme des griffes. Bref, Nebuchadnezzar sera dans un état.
Donc il est frappé par quelque chose.
Il est frappé, oui.
Est-ce qu'on a un nom pour cette maladie?
Alors la maladie s'appelle la bantropie.
La bantropie.
Voilà, B-O-A-N B-O-A-N-T-H-R-O-P-I-E.
La bantropie. Alors, qu'est-ce que c'est, voilà. Karine, cette maladie?
C'est une maladie mentale dans laquelle l'être humain, l'homme ou bien la femme, croit être un mouton, une chèvre.
Il va se comporter comme
d'elle. Et il se comporte de la même manière. Il mange de l'herbe, il dort dans de la paille, il ne se lave pas. Enfin.
Donc, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue scientifique, on voit que c'est une maladie qui tombe sur lui. Mais d'un point de vue spirituel, on voit que ce n'est pas un hasard. Parce que c'est au moment où il a eu un comportement,
oui.
de lui annoncer qu'il serait comme ça.
Voilà.
Oui. D'accord. Voilà.
Donc, il se trouve que pendant un certain temps, donc pendant 7 ans, il allait tomber, quoi.
Ouais. Ce comportement de bête.
Exactement. Et c'est ce qui se produit.
D'accord.
Alors, pour faire le lien entre l'histoire à proprement parler et la Bible. Un an plus tard, alors que le roi se glorifie lui-même, en contemplant sa capitale, la prophétie s'accomplit sous ses yeux. Donc effectivement, un an plus tard, Nabucodonosor perd la tête.
D'accord. Il est atteint par la banthropie.
La banthropie.
D'accord. Est-ce qu'on peut lire le passage où on voit ça? Peut-être que les livres d'histoire n'en parlent pas, mais la Bible en parle quand même.
Oui, bien sûr.
Je vais la lecture, on fait une pause musicale dans Daniel chapitre 4 et le verset 34.
Ok.
Alors, nous allons lire le passage, hein, Karine, où on voit que ce roi est frappé de banthropie. Le roi Nebuchadnezzar dont on parle est frappé de banthropie. Et il tombe dans une maladie, il est atteint par une maladie, il se comporte comme une bête des champs. Alors, c'est pas un hasard, c'est parce qu'il a fait des choses qu'il fallait pas faire. Nous lisons ce passage avec Timéo. Timéo, bonsoir.
Bonsoir.
On lit ce passage dans Daniel chapitre 4 à partir du verset 31, Timothée.
Timothée. La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et sept ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très haut domine sur le règne des hommes et qu'il lui donne plaît.
Merci donc à Timéo. Nous allons appeler Rodinho dans un instant qui nous lira le verset 34. Parce qu'il faut dire, Karine, qu'il a été frappé de cette maladie que tu as...
La banthropie.
La banthropie, où il se comporte comme une bête des champs. Mais on a déjà dit, je crois, qu'il a été guéri comme de ça.
Oui, exactement, oui.
On trouve ça au verset 31. Viens nous lire le verset 31. Lui, il s'appelle comment?
Rodinho.
Va nous lire le verset 31, ici. Daniel 4, verset 31. Verset 33.
Après le temps, Moquez-moi, Nebuchadnezzar. Je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération.
Merci. Alors Karine, on continue puisque nous sommes au point où ce roi Nebuchadnezzar est frappé donc d'une maladie, la bantropie. Mm-hmm. Il se comporte comme une bête. Il est dans les champs. Et je crois que l'histoire vraiment mm-hmm. académique nous dit un peu ce qui s'est passé dans cette période là, Karine, il me semble. Hein.
Alors oui, c'est une période que les archéologues soulignent. C'est-à-dire qu'il existe effectivement un règne mystérieux qui dure quand même 43 ans, où une reine semble avoir gouverné à la place du roi. Mmh. Alors c'est une énigme qui pourrait correspondre hein, à la période que nous avons lue là. Parce que le roi n'était pas en mesure de pouvoir gérer.
Oui.
Donc c'est tout naturellement que son épouse a pris la place.
D'accord.
Et il a été frappé pendant 7 ans. Et je crois que ça a duré un petit peu plus.
Oui, oui.
Effectivement.
Oui, parce que le chiffre 7, on sait que c'est un chiffre symbolique. Qui nous parle de l'intervention divine.
Voilà.
Chiffre 7 est un nombre de Dieu. Mais voilà. ça ne veut pas dire que ça a duré 7 ans de la manière
exactement.
Que
non,
nous
non.
connaissons.
Voilà.
C'est
non.
plutôt l'aspect d'origine divine
voilà.
qu'on veut souligner ici en disant que ça a duré 7 ans.
Voilà.
Ouais.
Alors, 7 ans, c'est pas rien. Hein.
Ah non, c'est pas rien.
On est à la tête d'un gouvernement et puis. On n'est plus en mesure de le diriger convenablement parce qu'on mange de l'herbe dans la cour extérieure.
Oui.
Il faut pas que le peuple le voie.
On le cache, quoi.
Donc on le cache, on lui trouve des excuses expliquant son absence.
Ah oui.
Et la reine, finalement, se retrouve
à gérer.
À devoir gérer. Mmh. Exactement. Mmh. Et elle l'a bien fait parce que on ne retrouve pas de traces de la présence de Nebuchadnezzar pendant ces années-là. Mais on constate qu'il y a quand même eu une gestion du gouvernement pendant à peu près 43 ans. Et on suppose que c'est la femme de ce roi qui a pris la place de manière à ce que son royaume ne chute pas.
Alors, j'ai une petite question, Karine, à ce stade-là.
Oui.
Qu'est-ce que toi, en tant qu'historienne, comment est-ce que, par rapport à d'autres histoires de rois que tu connais dans ta profession, d'un point de vue seulement académique, que penses-tu de ce roi-là, à ce stade où nous en sommes?
Alors, au stade où nous sommes là, je pense que nous sommes en face d'un roi qu'au départ, Dieu l'avait quand même béni.
Oui.
Malheureusement, faute d'humilité, il n'a pas su reconnaître que son pouvoir et le don qu'il a eu, parce que ce n'est pas rien que de gouverner une cité comme celle de Babylone. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, je pense que Dieu l'a béni, mais il n'a pas su voir ça. Donc, tellement préoccupé par toutes les interprétations dues aux songes, aux oiseaux dans le ciel, etc., il s'est laissé emporté par la gloire, la notoriété, ce qui fait que ça l'a plongé dans une certaine arrogance, mm-hmm. un certain sentiment de toute puissance qui l'a conduit à sa perte. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, ce que je pense de ce roi, c'est un roi qui a eu un impact relativement important sur le monde parce qu'il a fondé l'une des plus grandes cités de l'Antiquité. Plus tard, nous verrons que cette même cité continuera de grandir.
Ah, oui.
Et nous arriverons à l'Empire romain qui a pour fondation la cité de Babylone.
Ah, c'est pas rien.
Ce n'est pas rien.
Donc ce roi a quand même impacté la société, le monde, même jusqu'après sa mort.
Oui, bien sûr. Alors, nous verrons que à l'issue de ça, le roi retrouve la raison, finalement, à l'issue de ce moment de folie. Et il finit par reconnaître, Dieu merci pour lui, qu'il n'y a qu'une seule souveraineté. Il n'y a qu'un seul Dieu, et c'est le Dieu d'Israël. Le Dieu qu'il a mis à l'épreuve. Et on se rend compte que finalement, Nebuchadnezzar, c'est un homme qui force quand même le respect. Pourquoi ? Parce qu'il a su faire ce que peu d'entre nous arrivent à faire.
C'est-à-dire ?
Reconnaître nos torts. Mm-hmm. Reconnaître
merci,
qu'on a fauté.
Oui.
Reconnaître qu'on a mal agi. Mm-hmm. Il n'a pas cherché à se trouver une excuse. Oui, mais, non. Mm-hmm. Il a reconnu qu'il a eu tort. Il a reconnu Dieu comme Seigneur et Sauveur, hein, finalement. Et puis, il a pu reprendre le contrôle de son royaume.
Mm-hmm. Alors, juste pour rebondir sur ce que dit, j'ai retenu que tu dis que ça a été un roi qui a été béni par Dieu.
Oui.
Mais qui n'a pas su être reconnaissant.
Non.
Et qui n'a pas su rendre gloire à Dieu.
Non.
Mais je précise bien que tu as dit qu'il a été béni par Dieu.
Ses propos n'engagent que moi.
Oui, mais c'est confirmé par la Bible ce que tu dis là. C'est
voilà.
Textuellement. Alors, c'est pour ça que je m'attelle à faire la transition.
Alors, avec oui. Alors, pourquoi je dis que c'est un homme qui a été béni par Dieu ? C'est parce que je rappelle quand même, à toute fin utile, qu'on nous parle quand même d'un roi. Et c'est là où j'en reviens à dire ce qu'on disait tout à l'heure là. Les bonnes compagnies corrompent les bonnes mœurs. On parle d'un roi. On ne peut pas gouverner un royaume si on ne sait pas ce que c'est qu'être un roi. Donc il faut forcément s'inspirer de grands personnages. Mais si ce n'est pas Dieu qui met ces opportunités-là, d'où viennent-elles ? D'où l'importance de reconnaître que c'est Dieu qui, dès le départ, sans même qu'il ne s'en rende compte, il est important de comprendre qu'en fait, Dieu avait déjà béni ce roi en lui donnant le don de la gouvernance. Parce que je rappelle que
c'est un don spirituel.
C'est un don. Mm-hmm. Ce n'est pas donné à n'importe qui de pouvoir gérer un groupe, une population. Il n'y a qu'à voir une mère de famille seule qui a 5 enfants à gérer de 8h à 17h. Je peux vous assurer qu'à 15 heures, elle est fatiguée. Et elle n'est qu'à la moitié de sa journée. Là, on parle d'un roi qui ne gère pas 5 enfants, mais plus d'un million. Tout seul.
Tout seul.
Oui. Donc, si ce n'est pas un don de Dieu, je ne sais pas.
Alors, pour confirmer ce que tu dis, qu'il était un homme béni, mais qu'il ne le savait pas.
Oui.
Alors, en fait, pour prouver ça, qu'il était un homme béni et qu'il ne le savait pas, c'est juste avant sa maladie.
D'accord.
Et on sait dans la Bible pourquoi il est tombé malade. Parce qu'en fait, il a eu un songe.
Oui.
Il a vu un grand arbre, un arbre géant qui remplissait toute la terre. Et là, il a vu que cet arbre était devenu très grand et que tout le monde venait s'abriter sous cet arbre-là. Et un ange du ciel est descendu et a coupé l'arbre. Et ne comprenait pas le songe qu'il avait eu. Et Daniel, lui, comprend le songe. Il explique le songe au verset, dans la Bible, au verset 24. Il dit, voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On va lire à partir du verset 22. C'est toi, ô roi, qui est devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Donc
Amen.
Là, Daniel lui explique que Dieu lui a donné les nations, les peuples en gouvernance. C'est Dieu qui lui a donné ça dans ce chapitre-là. Et qu'il faut qu'il s'humilie.
Oui.
Parce que lui croyait que c'est sa force. Et Dieu l'a. Tu dis que Dieu l'aime, et c'est vérité. Dieu l'a averti déjà.
Oui.
Qu'il risque d'être sanctionné.
C'est ça.
S'il ne s'humilie pas. Et que la grandeur qu'il a là, c'est Dieu qui lui a donné ça.
C'est ça.
Mais comme tout homme croit, il refuse de s'humilier. Il pense que c'est lui qui a bâti cet empire-là.
C'est ça.
C'est là que. Il est frappé par cette maladie que tu appelles la
Bantropie. Exactement.
Bantropie. Voilà, c'est à ce moment-là. Parce qu'il a eu un songe au départ, un grand arbre qui est sur la terre, et que dans le songe, il a vu qu'un ange coupait l'arbre. Il ne comprenait pas. Et Daniel lui explique que cet arbre, c'est lui, en fait, qui est devenu grand. Dieu l'a béni, Dieu l'a comblé, Dieu l'a donné la domination, et que c'est Dieu qui l'a béni, et qu'il s'il ne se repent pas, il sera coupé. Et c'est ce qui s'est passé.
Oui. Alors en fait, quand on regarde bien, rien n'est nouveau sous le soleil. À partir du moment où on a un petit peu de gloire, un petit peu de notoriété, où on est un petit peu reconnu par nos semblables, la terre n'est plus suffisamment grande pour nous.
En
créole, on dit ça comment ?
La terre n'est pas rapportée encore.
Exactement. Ben voilà.
Ouais.
Et il se trouve que là, Dieu lui a dit, non, c'est pas toi. C'est pas toi qui gères ça.
Non mais Karine, est-ce que tu vois la facilité avec laquelle Dieu parle à ce roi-là?
Oui.
Dieu lui parle en songe.
Oui.
Deux fois, il a eu deux songes. Et c'est Dieu qui lui a parlé. Et Daniel, qu'il a choisi comme ministre, vient lui expliquer les songes. Parce que Daniel risque sa vie en venant expliquer au roi le songe.
Oui.
Parce que annoncer à un roi comme ça, qui avait pouvoir de vie et de mort sous quiconque, lui annoncer qu'il va être coupé.
Oui.
Qu'il va tomber une maladie, c'était prendre un risque considérable.
C'est sûr.
C'est là qu'on voit que ce roi-là, quand même, avait une certaine crainte des choses spirituelles.
Oui.
Et
qu'il va
écouter Daniel, comme tu l'avais dit au départ.
Oui, exactement. Il va préférer prendre en considération ce que lui dit Daniel, de peur de perdre son royaume.
Ah oui. Oui.
Donc, il est relativement important de comprendre que le roi, si vous voulez, il est tellement accroché à ses idoles spirituelles qu'il finit par se perdre lui-même.
Ah oui.
Et ça a fait qu'il a fini malade.
Oui.
Il mangeait de l'herbe avec les moutons, un roi. Je ne sais pas si vous réalisez un roi qui mange de l'herbe comme des moutons.
Je dirais un roi, mais le plus grand roi de cette époque-là.
Exactement.
Parce que Babylone gouvernait la terre.
Immensément riche, qui fréquente les grands des grands.
Ah, oui.
Il finit derrière le château là,
ah ouais,
à manger de l'herbe avec les moutons.
Ah oui.
Il est sale. Je sais pas si vous avez déjà observé comment fonctionne un mouton.
Mm-hmm.
C'est pas propre.
Oui.
C'est pas intelligent.
Ouais.
Et là,
il perd la raison, quoi.
Il est fou.
Ouais, il devient fou. Il perd la raison.
Voilà.
Ouais.
Mais bon, Dieu est grand. Dieu est bon. Les choses s'améliorent après.
Alors, Karine, il faut qu'on dise aussi, on voit dans la cour du roi,
mm-hmm,
on voit qu'il y avait des personnes qui étaient chargées d'interpréter les songes.
Oui.
Mais la Bible nous dit que on voit ces gens-là sont là. Le roi fait appel à eux et ces gens n'arrivent pas à expliquer le songe.
Non.
Et à chaque fois, c'est Daniel qui vient expliquer le songe.
C'est le seul.
Voilà.
On
peut dire par là, lorsque Dieu parle, les séanciers, les devins ne peuvent pas toujours comprendre le message que Dieu veut envoyer à son peuple.
Mais ils ne comprennent pas.
Ils ne comprennent pas du tout.
Ils ne comprennent pas. Il n'y a que Dieu qui donne le don.
Oui.
C'est lui seul.
D'accord. Voilà, donc toujours avec Karine hein, sur les 97.3 MHz. Nous sommes dans un temps très important où nous sommes en train de voir la vie du roi Nebuchadnezzar. Chers auditeurs, chers amis, que le Seigneur vous bénisse. On écoute d'abord, avant de continuer, on écoute ceci par la grâce du Seigneur. Dieu vous bénisse, mes amis.
Ils ont bâti des empires, conquis des nations, changé le cours de l'histoire. Qui étaient réellement Darius, Alexandre le Grand, Artaxerxès, Hérode et ces grands souverains qui ont marqué leur époque? Quel rôle ont-ils joué dans l'histoire du peuple de Dieu?
Dans les chroniques de l'histoire biblique, Karine, professeure d'histoire-géographie, vous emmène à la découverte de ces personnages qui ont croisé le destin d'Israël.
À travers une comparaison entre les sources historiques et le récit biblique, chaque émission vous permettra de mieux comprendre le contexte, les événements et les prophéties qui ont façonné l'histoire. Les chroniques de l'histoire biblique, une émission qui fait dialoguer l'histoire et les écritures pour mieux comprendre le passé et éclairer le présent. Rendez-vous très bientôt sur notre antenne, tous les mercredis de 14 à 15 heures ce mois de juillet et également au mois d'août 2026.
Alors, on te laisse le soin de continuer, Karine, nous t'écoutons.
Alors, nous allons présenter, si vous voulez, l'aspect caractéristique de ce roi. Alors, ce qui frappe chez lui, c'est la dualité de son caractère. Alors, je m'explique. D'un côté, nous avons un fin stratège politique intelligent qui laisse au peuple conquis leur religion et qui sait s'entourer des esprits les plus brillants parmi les vaincus pour qu'ils puissent l'aider à gouverner. Et de l'autre côté, on a un homme rongé par l'orgueil, sensible à la flatterie et capable de se prendre pour l'égal d'un dieu, à travers son comportement, son attitude, sa manière de voir les choses, et surtout à travers son aptitude à se glorifier lui-même. Nous avons vu que la conséquence a été ce qu'elle était censée être. Dieu l'a frappé.
Mmh.
Et puis, Dieu a permis qu'il finisse par s'humilier, se repentir, reconnaître Dieu. Et puis, les choses ont pu s'améliorer. Alors, quel serait le message qu'on pourrait tirer de l'histoire de ce roi? Alors, le message que la tradition biblique retient de cette histoire, elle est limpide. Aussi puissant soit un homme, il reste petit devant la puissance divine. Ça, c'est, je pense, le message que tous les hommes au pouvoir devraient avoir écrit en gros dans leur pièce, dans leur bureau. Aussi grand ou puissant soit un homme, aussi petit il reste devant la puissance de Dieu. Et ça, l'histoire le montre. Ensuite, on retient que Nebuchadnezzar a conquis des nations entières. Mais il s'est retrouvé rapidement désarmé face à ceux qui le dépassaient. Comme le dit le texte lui-même, Daniel a vu bien des rois circuler, venir, arriver. Et il a compris une seule chose, c'est qu'un seul pouvoir est véritablement divin. C'est le pouvoir de Dieu.
Mmh, oui.
Et moi, je laisserai donc à Nebuchadnezzar lui-même le mot de la fin. Dans cette confession qu'on lui prête après son retour à la raison, il dit qu'il loue et glorifie le roi des cieux en reconnaissant que ceux qui marchent avec orgueil finissent par être humiliés. Donc c'est sur ça que je m'arrêterai et que je conclurai en disant que on peut être un roi avec de grands châteaux, une grande armée, une grande stratégie, une grande intelligence. Mais si on ne prend pas le temps de s'humilier devant Dieu, non pas de se culpabiliser, hein, mais on prend le temps de reconnaître la grandeur de Dieu et de voir à quel point nous, on n'est pas forcément grand. Si on prend le temps de faire ça, de s'humilier, on va voir ce que Dieu est capable de faire pour nous. En résumé, Nebuchadnezzar nous donne une leçon de vie à travers l'humilité et l'obéissance à Dieu, qui compte bien plus que les réalisations terrestres. On n'oublie pas que seul Dieu détient en définitive le... Pour moi, le verset clé de cette histoire du roi, c'est le verset qui dit « Voici ce qui est décrété pour vous, roi Nebuchadnezzar. Votre autorité royale vous a été enlevée. » Ça veut dire que même un roi, on peut enlever, Dieu peut enlever son autorité royale. Et c'est ce qu'il faut retenir. Et à la fin, le tout dernier et le plus important de tous les versets pour ce roi, c'est lorsqu'il dit « Moi ». Alors, il dit « Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, exalte et glorifie le roi des cieux, parce que tout ce qu'il fait est bien et toutes ses voies sont bonnes. Et ceux qui marchent avec fierté, il peut les humilier. » Voilà, c'est tout.